Il est 6h sur Europe 1.
Et encore une avancée sur le front de la vaccination. Le vaccin Pfizer serait bel et bien efficace contre le variant sud-africain du virus. En parallèle, la défiance s'accentue à propos du sérum AstraZeneca. Il y aurait bien un lien avec quelques cas rares de thrombose. Aux États-Unis, la polémique enfle autour de l'idée d'un passeport vaccinal. Pour l'instant, l'expérimentation est en cours à New York. Dans ce journal, le témoignage d'une survivante du génocide au Rwanda, 27 ans après les faits. Et puis la fin du cauchemar pour un Français incarcéré à tort à Hong Kong pendant 3 ans.
La page des sports à suivre avec l'exploit du PSG hier à Munich contre le Bayern, 3-2 avec un doublé de Mbappé bien sûr. Et mon invité inattendu qui vient nous raconter comment il a convaincu Catherine Deneuve d'accepter un rôle pour le coup très inattendu. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Décidément, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Et c'est tant mieux puisque c'est celui qu'on reçoit en majorité. 8 millions de doses sur les 12 millions reçues ce mois-ci. Il y avait encore quelques doutes sur son efficacité contre le variant sud-africain du virus. Mais selon des données récentes, Victor Delande, le vaccin Pfizer assurerait bien une immunité aux patients qui l'ont contracté.
Oui, un essai clinique a été mené en Afrique du Sud, 800 participants recrutés dans deux groupes différents. Pendant que le premier recevait le sérum Pfizer, le deuxième, lui, avait un placebo. Au total, 9 cas de Covid, tous dans le groupe placebo, ce qui indique une efficacité du vaccin à 100%, même s'il faudra réaliser des études à plus grande échelle pour confirmer ces données. Pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri Mondor, cette étude est très encourageante.
Données immunologiques dont on dispose montrent que même s'il y avait une baisse de l'activité neutralisante, cette baisse était beaucoup moins conséquente qu'avec d'autres vaccins et laisser espérer une efficacité de ce vaccin contre ces variants.
Et ce n'est pas fini, la Rolls des vaccins anti-Covid resterait aussi efficace à 91% 6 mois après la deuxième injection. Et dans une dernière étude menée auprès de 2000 adolescents de 12 à 15 ans, le sérum Pfizer fait un carton plein, 100% d'efficacité. Des données particulièrement intéressantes. Pour le moment, la vaccination des plus jeunes n'est pas encore envisagée, mais elle pourrait le devenir dans les prochains mois pour obtenir une immunité collective plus importante.
Merci Victor Delande.
Le vaccin AstraZeneca, lui, n'en finit pas de s'enliser selon l'Agence européenne du médicament. Il existe bien un lien entre son injection et des cas très rares, hein, mais des cas de caillots sanguins et de thrombose.
L'Agence européenne du médicament qui tempère la balance bénéfice-risque reste en faveur du vaccin, mais forcément, la méfiance s'installe de plus en plus. Exemple avec Florence, sa mère, septuagénaire, pourrait recevoir une dose d'AstraZeneca, mais dans sa famille, tout le monde s'y oppose.
Elle aurait pu aller chez son pharmacien qui avait des doses d'AstraZeneca. Elle était d'ailleurs sur la liste. Quand elle a appris que c'était une liste exclusivement AstraZeneca, elle a préféré laisser sa place et attendre d'avoir un rendez-vous soit pour le Pfizer, soit pour le Moderna. Ma mère a 72 ans, elle a des problèmes de coagulation avec les problèmes dont on entend parler au sujet de l'AstraZeneca et les problèmes de thrombose. Ça correspond parfaitement aux problèmes qu'elle peut avoir, donc on n'a vraiment pas voulu prendre ce risque, et elle d'autant moins. Maintenant, on fait très attention, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas ou très très peu. On a limité autant que possible les sorties et les contacts avec autrui, justement pour minimiser les risques d'attraper le Covid sans avoir été vaccinée.
Un témoignage recueilli par Johanna Chabas. Le télétravail commence doucement à remonter en avril selon un sondage Harris Interactive. 37% des actifs le pratiquent contre 35% en mars. L'étude a été réalisée avant la fermeture des écoles, mais 19 départements étaient déjà soumis à des restrictions à ce moment-là.
Nous allons à présent aux États-Unis où la vaccination accélère, mais où un débat fait rage en ce moment, pour ou contre le passeport vaccinal.
Et là, c'est un bras de fer qui s'est engagé entre les gouverneurs des différents États. Pour le moment, seul New York propose ce fameux sésame. Il vient d'être lancé, Alexis Guilleux, et il permet par exemple d'assister à des événements sportifs ou culturels.
Oui, comme par exemple le match de l'équipe de basket de Brooklyn hier soir. Cyril, téléphone en main, vient de franchir les barrières de sécurité. C'est assez simple à utiliser. Si ça me permet d'entrer quelque part, alors ça me va. Hier, j'ai téléchargé l'application, j'ai entré mes détails, on m'a demandé ma date de naissance, mais pas mon numéro de sécurité sociale. L'Excelsior Pass, c'est le nom de ce passeport new-yorkais, et c'est en fait un QR code qui résume votre statut vaccinal. Il n'est pas obligatoire pour le gouverneur de New York. New York, c'est un outil supplémentaire pour lutter contre le virus et rouvrir l'économie en toute sécurité, David utilise le passe pour la première fois. Je suis absolument pour ce passeport. Vive le passeport vaccinal, comme ça je peux faire ce que je veux. Et concernant les risques pour ces données privées, on n'a plus de vie privée, on l'a perdue il y a 10 ans. Alors pour le moment, l'Excelsior Pass n'est pas encore très répandu, et sur ce sujet, New York fait même figure d'exception aux États-Unis. Les gouverneurs de Floride et du Texas ont déjà fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. La Maison-Blanche a, elle, indiqué cette semaine ne pas souhaiter de certificat de vaccination au niveau fédéral.
Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1.
Il est 6h05 sur Europe 1. La politique et les élections départementales et régionales, pour l'instant, elles sont toujours prévues les 13 et 20 juin prochains. Mais comment les organiser ?
Jean Castex attend d'ici ce soir les avis des partis et associations d'élus. Le Premier ministre l'a dit la semaine dernière. À ce stade, les deux scrutins sont maintenus. D'ici là, chacun y va de sa proposition. Aurélie Herbemont.
Du bon sens et de la souplesse. Voilà ce que préconise l'Association des départements pour la campagne. Dans les contributions envoyées à Matignon, beaucoup réclament que la règle des 10 km pour se déplacer fasse l'objet de dérogations pour les candidats et qu'ils puissent organiser des réunions à un peu plus de 6 avec des masques. Histoire que cette campagne ne passe pas sous les radars, les Insoumis demandent 3 débats télévisés dans chaque région et un débat par canton, pendant que le PS souhaite plus de pages dans les professions de foi envoyées aux électeurs. Les idées affluent aussi pour les jours de vote. Vaccin ou test PCR négatif pour ceux qui tiennent les bureaux ont la cote. L'association des petites villes suggère qu'on puisse voter jusqu'à 20h sur tout le territoire et pourquoi pas dehors. LR préfère l'option des purificateurs d'air. Le gouvernement n'a plus qu'à choisir ce qui lui semble faisable ou pas.
Aurélie Herbemont. Emmanuel Macron fera face au cadre dirigeant de l'État tout à l'heure pour parler de la réforme de la haute fonction publique qui doit être mise en œuvre avant la fin du quinquennat. Selon les informations d'Europe 1, le président devrait annoncer la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Un nouveau calendrier pour le Beauvau de la sécurité, ce vaste débat sur la police et la gendarmerie, initialement attendu cet été. Les conclusions seront finalement rendues à l'automne à cause du nouveau confinement. Un texte de loi devrait voir le jour en décembre.
Il y a 27 ans, débutait le génocide au Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été massacrés par les Hutus au pouvoir.
Un régime à l'époque soutenu par la France. 27 ans après donc, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères à l'époque, fait son mea culpa. Pendant près de 30 ans, j'ai porté cette blessure de n'avoir pas réussi à empêcher cette terreur, écrit-il dans une longue tribune publiée dans Le Monde. En 1994, Jeanne avait 16 ans, elle a perdu plusieurs membres de sa famille dans le génocide.
Nous sommes fatigués de ces hommes politiques. Nous sommes fatigués qu'on continue à juste à lâcher une petite phrase en disant « c'est extraordinaire ». Non, monsieur Juppé, non, il ne peut pas dire qu'il a fait tout en son pouvoir. Quand ils sont partis en évacuant tous les Occidentaux, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas qu'ils ont sous-estimé. Il y avait des corps dans Kigali. Il y avait les corps des nôtres. Derrière ces corps, c'était nos parents, nos voisins, nos amis. C'est indécent. Soit on regarde la vérité en face, on l'assume, soit on se tait et on le laisse tranquille.
Le témoignage de cette rescapée du génocide au Rwanda recueilli par Nicolas Feldman.
Et puis c'est un dénouement judiciaire heureux pour ce Français accusé à tort de blanchiment d'argent. Il vient de passer 3 ans en prison quand même à Hong Kong.
Et Mathias Eschen a été acquitté hier dans une affaire de malversation financière par ses anciens associés qui durait depuis 10 ans. La fin d'un cauchemar pour ce père de famille.
Quand j'ai été acquitté, j'ai fondu en larmes et j'ai pensé avant tout à mes 3 enfants qui depuis 9 ans subissent cet horrible cauchemar pour rien. Tout ça, ça a commencé parce que mes anciens partenaires, qui sont des milliardaires et des millionnaires, ont décidé un jour qu'ils ne me faisaient plus confiance. Et donc, sans aucune preuve, sur la base de rumeurs, ils ont décidé de porter plainte contre moi à Hong Kong. Donc, il y a eu voilà une espèce d'horrible période très longue pendant laquelle tout le monde a dit « il n'y a pas de fumée sans feu, donc Eschen, il doit être coupable », ce qui était complètement faux. Parce que moi, finalement, je savais que j'étais innocent depuis le début, donc voilà, j'ai tenu, j'ai vécu un enfer. Mais j'en suis sorti, rentré en France, tirer mes enfants dans mes bras. C'est ça ma hâte, c'est ça ma priorité absolue.
Des propos recueillis par Benjamin Péter.
Mathias Eschen, Sophie Eschen, pas de lien.
Hein.
Soyons
aucun
précis.
Lien, c'est promis.
Aucun lien.
Et on va terminer avec ce chiffre. Malgré la réforme en vigueur depuis 2015, les nouveaux pères ne prennent pas plus de congé parental après la naissance de leur enfant. Ils sont toujours moins d'1% contre près de 14% des mères.
Voilà, c'était le journal de Sophie Eschen sur Europe 1. Il est 6h10.